Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Viviane Mayer a vécu toute sa vie en prenant soin des enfants des autres. Cette Américaine était nourrice et gouvernante aux États-Unis. Et c'est seulement après sa mort, en 2009, qu'on a découvert l'intégralité de ses 200 cartons remplis de matériel photographique. Des appareils, des pellicules, des négatifs. Au total, 150 000 images qui représentaient 30 années de photographie et qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de publier. Aujourd'hui, quand on déambule dans un musée qui lui consacre une rétrospective, qu'on slalome entre les visiteurs dans des salles bondées. Ce qui est bouleversant, ce n'est pas seulement l'attention qu'elle porte aux détails d'inconnus croisés dans la rue. C'est aussi la grâce qui se dégage de l'aspect totalement gratuit de son œuvre. Du fait que ces clichés-là étaient destinés à rester dans des cartons et dans l'obscurité. Qu'elle n'avait aucun autre objectif que d'immortaliser ses visages. Si ce n'était pas la célébrité, le succès, la reconnaissance qui l'animait. Alors quel était son moteur pendant toutes ces années? Quelle nécessité l'a poussée inlassablement à créer tant de beauté? Cette semaine dans Passage, Patricia et Yaya racontent les nécessités qui les animent, eux, à agir comme ils le font, gratuitement, pour les autres. Une autre forme de don de soi, un autre éclat de grâce, au micro d'Adèle Gaïto. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Mes frères et moi avons été placés lorsque nous étions tout jeunes. Je passais tout mon temps à pleurer parce que mes parents me manquaient, et notamment ma mère. Et un jour, il s'est passé un vrai déclic, c'est que j'en ai eu marre de passer mon temps à pleurer. Et ce jour-là, on m'avait dit de faire du vélo. Donc une petite allée bien, bien droite, bien plate. Je m'amusais à faire de la mécanique, j'ai enlevé les roulettes. Je suis montée dessus et là, j'ai foncé tout droit et dans mon souvenir, vraiment, j'avais la tête dans le guidon et je me suis penchée en avant et j'ai roulé pour pas tomber. Et là, je me suis dit, j'arrête de pleurer et je me suis décidée à foncer, pas tomber. Et ça s'est bien passé, je suis pas tombée. Mais c'est maintenant que je repense à tout ça et je me dis, ça a peut-être induit en moi un caractère de guerrière.
Je suis quittée en Guinée en 2014. J'avais 14 ans. Quitter en Guinée, ce n'était pas une décision qui venait de moi. C'était une personne qui voulait me sauver de la souffrance, de la galère, des mépris, d'une condition extrêmement grave qui m'a pris dans ses ailes et qui m'a mis sur la route. Tout ce que j'ai compris, il voulait qu'on quitte la Guinée pour un autre pays. Et je suis passé par le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, l'Italie avant d'arriver en France. D'abord, on est arrivé dans l'île de Cagliari, en Sardaigne. Après quelques mois, moi, j'ai décidé de partir. En Italie, dans l'île où nous étions, c'était très compliqué. Les mineurs et les majeurs étaient dans le même bateau. Et il n'y avait rien de différent. Quelques personnes qui sont restées longtemps dans ce foyer me disaient « Ah, les mineurs, si vous voulez étudier, c'est mieux pour vous d'aller en France ou dans d'autres pays. Parce que là-bas, au moins, vous aurez la chance d'aller à l'école ou de se former, mais en Italie, c'est rare. » Plusieurs essais, tentatives, et finalement, je suis passé. Quand je suis passé de Ventimiglia, l'arrêt, c'était à Marseille. Et c'est là-bas qu'ils nous ont dit « Vous vous arrêtez ici ». Ils ne savaient nulle part où aller, c'était froid en plus, je suis sorti dehors, sur les bancs, j'ai dormi là-bas. Et je suis resté là-bas jusqu'à 5 heures quand le premier train il partait. Je suis remonté dans le train, moi je ne savais pas où j'allais, hein. Mais au moins de rester un peu dans le saut. Donc je suis resté dans le train, contrôlé, il m'a contrôlé, je ne me rappelle pas dans quelle ville. Il m'a dit « Ah, vous n'avez pas de billet ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas de billet ». Il m'a dit « Vous descendez ». Le prochain train qui est arrivé, encore je suis monté. Et c'est là, quand je suis arrivé à Grenoble, j'étais fatigué, affamé, parce que ça faisait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je suis sorti dans la gare. Et j'ai vu les gens qui présentent leur tableau là. À l'époque, je ne savais pas que c'était des témoins de Jéhovah. Je suis allé vers eux. Très souriant, ils m'ont accueilli. « Ah, ça va, tu vas bien ? Oui, un peu. » Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit « Ah mince, il y a une dame, elle est allée acheter un croissant. » À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait le croissant encore. Elle m'a acheté des croissants et chocolat chaud. Elle m'a dit « Tu as vu la ligne de tram là ? Tu vas la suivre jusqu'à où tu vas voir une fontaine. » Et je ne savais pas que c'était quoi une fontaine aussi. Tu vas sûrement voir des jeunes de ton âge là-bas qui demandent une association qui occupe des mineurs. Quand je suis arrivé, il y avait des gens devant, beaucoup de jeunes de ma couleur. Et quand je suis rentré, la première personne que j'ai vue, il m'a donné à boire du lait, beaucoup de choses, j'ai mangé. J'avais les lèvres sèches, tout. Après, il m'a demandé, tu viens d'où ? J'ai dit, tu viens de la Guinée. Tu es arrivé comment ? Je lui ai expliqué la route. Hein. Il m'a dit, OK. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ton évaluation, mais... Tu vas suivre la même route que tu es venu. Tu montes jusqu'à la gare. Et en face de la gare, il y a un hôtel là-bas qui présente ça à l'accueil. Une semaine plus tard, ils m'ont trouvé d'abord une famille d'accueil. Et quelques temps plus tard, ils m'ont convoqué pour faire une évaluation. C'est pour déterminer ma minorité et mon isolation. Ils te posent des questions. Comment tu as quitté chez toi? Pourquoi tu as quitté chez toi? Comment tu es arrivé ici? En fonction de ce que tu dis, ils mettent son appréciation. Si le juge décide que tu es mineur, donc... On te place dans l'un des départements de la France. Moi, reconnu à Grenoble et placé dans le département de l'Ain. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'était un peu triste pour moi parce que c'était le jour de mon anniversaire de mes 17 ans que mon assistante sociale m'a appelé et dit « Yaya, tu vas être transféré. » J'ai dit « Transféré où ?»« Ah, dans l'Ain. » C'est à Bourg-en-Bresse. J'ai dit « C'est pourquoi ?» Il dit « Pas parce que tu as été accepté mineur et tu dois partir demain. »
Ma mère est issue des gens du voyage. Dans son histoire, ils ont vraiment vécu en roulotte avec des chevaux. Les grands-parents passaient de village en village avec un ours. Le fait que ma mère soit issue du voyage, ça a généré pas mal de conséquences. Ici, dans l'Ain, j'ai vraiment senti un accueil tout particulièrement où les gens n'ont pas cherché à me connaître. Ils ont surtout fait attention à ses origines plus qu'à moi particulièrement. J'ai 5 enfants merveilleux que j'aime à la folie et dont je suis très, très fière. Leur papa est décédé en 2008. Ça a été un événement très douloureux pour tout le monde. Grâce au courage des enfants et à leur volonté d'aller de l'avant, je me suis dit, mais si les enfants ont cette capacité à surmonter une telle épreuve, ben moi-même, je dois rester un pilier et leur montrer qu'ils peuvent compter sur moi. Nous vivions dans une ferme, dans la Dombe, avec des animaux, des cultures. Alors à cette époque, nous n'étions pas mariés, j'ai jamais été déclarée dans la ferme, donc... Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, hein, le vide sidéral. Donc, j'ai retroussé les manches assez rapidement en me disant que j'avais pas d'autre choix que de vite trouver un travail ou deux pour qu'on s'en sorte. Je m'étais promise d'alléger un petit peu la peine des enfants, de les laisser faire leur deuil sans rajouter de la misère à cette peine. Et les jours où c'était vraiment difficile parce qu'il y avait une facture qui n'était pas prévue ou que je me disais, mais comment on va surmonter ça ? Et bien, ce jour-là, plutôt que de se désespérer, me disait ben, la meilleure façon de leur cacher, c'était de faire la fête. Moi, à petite échelle, hein, on faisait des crêpes. Et puis, on mettait un petit peu la musique et on passait une très, très bonne soirée. Et les crêpes, ce qui est bien, c'est que ça demande peu d'ingrédients. À ce moment-là, ça me convenait très, très bien et ça a permis de faire passer les problèmes comme ça, à transformer ça en fête.
J'étais transféré le même jour avec un autre jeune. Nous sommes arrivés à Bourg-en-Bresse. Il y avait une autre personne qui nous attendait à la gare. Et cette dame nous a pris et nous a amenés à l'hôtel. Un hôtel où on accueille les jeunes par le département de l'air. Et nous sommes restés dans cet hôtel. C'est l'un des moments difficiles aussi de mon parcours, de rester dans cet hôtel, sachant qu'il me restait une seule année dans ma minorité, sans rien faire pendant 3 mois. Nous sommes restés de juillet, août jusqu'à septembre. Et sans suivi éducatif, on est allé voir la CIMADE. C'est là, je pense, que beaucoup de choses ont changé de notre vie, même si on n'était pas au courant à l'époque. Une dame s'est proposée de venir pour nous voir. C'est Résine. Elle est venue nous voir et elle s'est proposée de nous faire sortir quelques fois, d'aller se balader, de nous expliquer de la culture, de la fonctionnalité de la République. Parler de plein de trucs, nous apprendre à lire, nous montrer des associations où il faut aller et nous encourager de ne pas rester seulement au lit, de sortir, mais de sortir encore.
En arrivant dans la vie d'Henri Pierre, je l'ai observé parce que j'avais aucune connaissance de la fabrication du pain. Et c'est par l'observation que petit à petit, j'ai commencé à me rendre utile et faire, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et je trouvais ça beau, les gestes du boulanger pour façonner les pains, entendre le pain craquer à la sortie du four. C'est un four à bois, donc quand le pain sort du four et qu'il se rétracte un petit peu, ça fait plein de petits craquements comme ça. Et les odeurs du pain, c'est extraordinaire. Tous les pains ont une farine différente et une odeur différente. Et ça, j'adore parce que déjà, je suis gourmande, j'adore le pain. Et je me disais, quel environnement, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Aujourd'hui, on est deux. Et il me faut une nuit complète pour réaliser avec mon mari les 16 pains différents. Après, il faut charger le camion, il faut partir au marché, il faut déballer par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est tous les jours, sauf le lundi. Alors, il faut se lever à minuit impérativement. C'est-à-dire que si je me lève après minuit, je peux retourner me coucher parce que je sais que je n'y arriverai pas. Je fais exactement le double tous les jours d'heures, ce qui est énorme. Je suis assez surprise qu'en fait, je ne me sens pas au bout du rouleau physiquement et moralement. C'est que je suis tellement encouragée par les clients que j'ai toujours envie de faire plus. Et je me dis, mais jusqu'où ça va me mener? Parce que je ne peux pas ne pas dormir. Je dors 2, 3 ou 4 heures maximum. Mais 4 heures, c'est la grasse matinée. Concrètement, il faut penser très vite à retrouver un apprenti ou un salarié parce qu'à long terme, ce n'est pas envisageable de travailler autant. C'est-à-dire que les journées, elles vont de 16 à 18 heures.
Moi, mon objectif, c'était de trouver un apprentissage avant ma majorité. Alan, c'est un témoin de Jéhovah. Pour la première fois, je l'ai rencontré à Grenoble. Il m'a aidé dans l'orientation des métiers. Il a dit, Yaya, en France, si tu ne veux pas du tout sommer dans le milieu professionnel, il faut que tu travailles dans les métiers de bourse. J'ai dit, c'est quoi un métier de bourse? Moi, je croyais que c'est dentiste. Hein. Et il m'a dit, non. C'est tout ce qu'on mange, c'est-à-dire la restauration, la cuisine, la boucherie et tant d'autres. Mais tout ce qui est fait pour manger, si tu touches, parce que les Français, ils mangent beaucoup. J'ai fait un stage à la boucherie. Mais sauf que la boucherie de là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas prêts à prendre un apprenti parce que le patron, il est vieux, il n'a plus la patience d'apprendre à quelqu'un. OK, je n'étais pas content, mais voilà, j'ai dit, c'est la loi de la nature. Un samedi, je suis venu chez Résine. Résine me prend. Hein. Nous allons au marché. Elle me dit, voilà, Patricia, voilà, je suis venu te présenter Yaya. C'est ce jeune dont je t'ai parlé qui aimerait découvrir le monde de la boulangerie. Et moi, comme c'est toi qui fais mes pains depuis des années maintenant, je suis bien content de manger tes pains qui sont sans gluten. Et j'aimerais bien que tu le prennes en stage. Patricia dit, oui, il n'y a pas de souci. Il me donne un fondant au chocolat, je mange. Madeleine, je mange. Il me dit, mange.
La première impression que j'ai de Yaya, c'est d'avoir envie de le connaître. de passer du temps avec lui et de comprendre qui il est et ce qu'il a vécu et pourquoi il est là. Et ce sourire extrêmement solaire dégage beaucoup d'amour et de résilience. J'ai dit oui, un grand oui, et je sais qu'on va passer des bons moments.
Quand je suis arrivé, tout a commencé à 6 heures du matin. Je n'ai pas voulu emprunter les règlements. Je suis arrivé à 6 heures, j'ai regardé. Mais la plupart, à 6 heures, il n'y a rien à faire. Parce qu'eux, ils font le marché à 7 heures, 8 heures, ils doivent partir. Donc dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait ça une fois, deux fois. Et la troisième fois, je me suis dit non, mais là, je ne vois rien. Quand j'arrive à 6 heures, le travail il est fini. Et le vendredi, je viens à 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, non, je suis venu regarder. Ah non, tu n'as pas droit. J'ai dit, ouais, mais si je reste ici jusqu'à 6 heures, je ne vois rien. Je vais juste regarder. Et j'ai regardé faire. La première chose que j'ai commencé à faire, c'était les madeleines. Parce que là, il n'y a rien à faire. Il faut regarder une recette et mettre tout dans un pétrin robot. Et tu fais 3 heures, 6 heures, je faisais que des madeleines. Ce que j'ai fait aujourd'hui en 5 minutes. Et là, j'ai fait 2 heures juste avec les madeleines. Comment les faire, les mettre dans les moules. J'ai fait 3 heures pendant. Et finalement, quand j'ai réussi, ils l'ont fait courir, j'étais content. Aïe, 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 t'es content? J'ai dit, oui, t'es content. Tu sais, tu as fait combien d'heures pour faire ces madeleines? J'ai dit, bah, non, je ne sais pas. Il a dit, depuis que tu étais réveillé. J'ai dit, oh, ok. Bah, au moins, il a dit, mais bravo, parce qu'au moins, tu as réussi à les faire. J'ai dit, oui, je suis content. C'était les madeleines que j'ai fait en première position. Après les madeleines, je suis venu au fondant au chocolat. Deuxième journée, j'ai réussi à faire les madeleines et les fondants au chocolat pour les desserts. J'ai dit, ah, ça évolue. Hier, c'était une, aujourd'hui deux. Et petit à petit, comme ça.
Quand il est à la ferme la semaine pour son stage, il mange avec nous. Il a sa chambre. Yaya fait rapidement partie de la famille puisque il se passe des super moments à table. On est nombreux. Il a de l'humour, il plaisante avec les enfants et nous, ça nous fait du bien parce qu'on se dit, ben, c'est un bon choix de l'avoir accepté en stage. On partage notre métier, mais aussi notre vie. On lui a totalement ouvert les portes. Il est intégré et on n'a surtout pas envie de le perdre de vue.
Depuis ma deuxième ou troisième semaine ici, dans ma tête, je me sens comme j'étais chez moi. Parce que Patricia, quand elle va au marché, en revenant, elle a compris qu'ils aimaient bien manger le couscous. Elle prend couscous. Quand elle va au marché, elle voit des gens qui revendent du riz. Elle sait qu'ils aiment bien manger du riz. Elle achète du riz. S'il achète un truc pour un de ses enfants, il l'achète avec moi, pour moi aussi. J'ai dit, mais Patricia, non. Il dit, non, mais de toute façon, c'est nous qui travaillons, Yaya. Donc, tout travail mérite salaire. Comme pour le moment, je n'ai pas le droit de te donner l'argent, mais au moins, tu te le fais en cadeau. Tout travail mérite salaire. J'ai dit, oui, moi, pour le moment, ce qui m'importe, c'est de découvrir le métier et faire le boulot.
Yaya est à la sauvegarde de l'enfance. Il sait qu'à partir de 18 ans, sa situation va devenir ingérable parce qu'à 18 ans, on met les jeunes à la rue concrètement quand ils ne sont pas dans une démarche de scolarisation. Et moi, je fais une promesse d'embauche pour le prendre en apprentissage parce qu'à la ferme, personne d'autre s'est présenté pour avoir un contrat d'apprentissage. On est à la campagne, on travaille de nuit et il n'y en a pas d'autre que Yaya. On veut qu'il soit apprenti chez nous. Et Yaya a cette nécessité de signer ce contrat avant 18 ans. Et ça ne se passe pas comme on veut.
Je vais voir mes éducateurs. J'ai dit, écoutez, voilà, moi je sais que je vais avoir mes 18 ans en juillet. J'aimerais que, voilà, on signe mon contrat d'apprentissage. Et c'était en mois de mai. Ils me disent, non, mais t'inquiète, l'essentiel c'est de trouver. Si tu trouves, il n'y a pas de souci, on va te signer. Mais pour le moment, c'est très tôt, on ne peut pas signer. J'ai dit d'accord. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Le patron, il est là, vous pouvez l'appeler et elle est OK pour tout. J'ai demandé aux éducateurs juillet avant mon anniversaire. Souvent, je les demandais avril, mai, juin. Et fin mois de juin, juillet, je les demandais. Ils disent non, Yaya, écoute, c'est trop tard. Je croyais que c'est une blague. J'ai dit, bah, vous vous rappelez quand même. Je vous avais demandé à mois de mai pour mon apprentissage. Vous avez dit, c'est trop tôt. Et là, vous me dites, c'est trop tard. Je suis resté comme ça, dans beaucoup de stress. Et à la veille de mon anniversaire, je quitte au marché. voir Patricia. J'ai reçu un message de mon éducateur à l'époque. Hein. « Coucou Yaya, je te souhaite joyeux anniversaire par anticipation, mais n'oublie pas d'appeler le 115 demain pour préparer ta sortie. »
Au jour de ses 18 ans, ces gens-là lui disent « Il faut que tu partes, parce que tu ne fais plus partie du cadre. Tu es majeur, tu dois partir. » Et Yaya passe me voir au marché. Il me dit qu'il est mis à la porte de son institution. Moi, je suis sur le marché, je dois vendre mon pain. Et en même temps, j'apprends cette nouvelle et très rapidement trouver une solution avec lui. Je suis bouleversée. Je ne conçois pas qu'Yaya soit à la rue. Mais je dois continuer à vendre mon pain parce qu'il n'est pas l'heure de partir. Et je demande à Yaya de rester avec moi jusqu'à la fin du marché parce que je ne veux pas le savoir dans la rue. J'ai peur pour lui. Je suis traversée de plein d'émotions, la colère, la tristesse, l'inquiétude. Voilà, il fait partie de la famille. C'est comme mon fils. Enfin, aucun parent accepterait de voir son fils à la rue. J'ai dit, reste avec moi. Il reste, on remballe tous les deux. Et là, je ne sais pas quoi faire rapidement pour lui remonter le moral. Alors, j'ai une pulsion, c'est de lui faire un cadeau. Donc, on s'arrête au magasin et je lui achète un vélo. Je lui dis, tu choisis, prends-en un beau, je veux que tu te fasses plaisir. Et bah, lui, son réflexe, c'était de regarder les étiquettes avec les prix. Donc, j'ai choisi à sa place un beau vélo parce que je voulais lui faire plaisir. C'est un geste qui est peut-être inutile, mais à court terme, j'ai trouvé que ça. Pour faire quelque chose de positif, je veux vraiment transformer la misère en acte positif. Je me dis, c'est pas possible, on va pas se laisser toucher par cette horreur. Donc, j'ai que cette idée, c'est de lui faire un petit plaisir pour oublier un peu ce qu'il vient de vivre à travers ce cadeau. Voilà. Donc, on part avec le vélo. J'ai dit, au moins, tu pourras faire tes formalités avec un moyen de transport. Quand Yaya m'apprend qu'il a une OQTF, je ne sais même pas que ça existe. Et une fois que je sais que ça veut dire obligation de quitter le territoire, je ne comprends même pas comment c'est possible. Après avoir eu un parcours aussi vertueux, je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour que la préfecture te permette de rester? Parce que tout dépend d'eux. C'est quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi la décision appartient uniquement à la préfecture. Ils ne le connaissent pas, moi je le connais, j'ai vécu des choses avec Yaya, on sait que c'est une bonne personne, la sauvegarde de l'enfance aussi. Toutes les institutions savent que Yaya justifie de pouvoir rester en France, sauf la préfecture. Donc je comprends petit à petit surtout les conséquences de cette obligation de quitter le territoire, c'est qu'à tout moment, potentiellement, il y a un contrôle de papier dans la gare. Concrètement, il peut finir en centre de rétention et partir dans son pays. Je ne sais pas encore toute son histoire à Yaya, mais je sais que s'il est renvoyé dans son pays, il n'en a plus pour très longtemps à vivre parce qu'il est parti pour sa survie. C'était grave au point où si tu restes, tu meurs. Donc si tu y retournes, tu meurs.
C'est le moment le plus difficile d'un immigré, c'est quand tu vois la police. Tu as peur. Parce que tu peux être un endroit, même si tu es la victime, pas l'auteur. Parce que la police, quand ils viennent, c'est contrôle d'identité d'abord avant tout. Et dès qu'ils voient mettre ton nom et tu vois que tu es sous l'obligation de quitter le territoire français, tu es convoqué. Toutes ces peurs te rongent dans la tête, t'empêchent de dormir, te réveillent en pleine nuit, te fait rassaser en plein repas, même si tu auras faim dans 5 minutes. Tu vois le facteur passer, tu dis, oh là là, c'est une convocation. Tu vois la police passer, ils me cherchent. Donc c'est comme un évadé.
Là, je me dis, il va falloir trouver des gens et des solutions. Je ne sais pas encore dans quoi je me lance à cette période-là. Je sais juste que je ne veux pas l'abandonner. C'est la seule chose que je sais. Mais après, tout le reste est totalement flou parce que je n'y connais rien aux lois et à l'administratif. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Mais je m'y intéresse de près et là, je commence à... à faire des recherches pour trouver des solutions.
Donc, avec Patricia, on a fait une promesse d'embauche. J'ai appelé le CECOF, le centre de formation pour les apprentis, parce qu'ils avaient déjà fait mon évaluation pour savoir si j'étais capable de faire le CECOF. Donc, j'avais déjà fait ça. Donc, j'ai appelé. Ils m'ont envoyé l'attestation pour dire oui, je suis capable de faire. Et Patricia a écrit une lettre pour dire qu'il a vraiment besoin d'un apprenti dans son entreprise. Pourquoi? Parce qu'ici, comme tu vois, il est isolé. Il n'y a pas beaucoup de jeunes français. Je ne me moque pas d'eux. Hein. Mais ils aiment tout souvent être avec leurs parents, avec leurs amis et en ville. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aimeraient venir ici faire une semaine pour le travail. Et moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais trop bien ici. Donc, il a dit que voilà, nous aimerions avoir un apprenti et Yaya est disponible de venir travailler avec nous. On a fait cette demande en novembre 2020. On n'a pas eu de réponse. J'ai tout fait comme ils l'ont demandé.
Pour aider Yaya à travers cette obligation de quitter le territoire, c'est de l'accompagner en préfecture très, très régulièrement. Alors, tous les 15 jours, le jeudi matin, je loupe un marché pour l'accompagner à la préfecture, réclamer un récépissé de droit au travail. Hein. Donc, c'est un papier pour eux qui est très facile à délivrer puisqu'il est valable 3 mois. Et il se réactualise, donc ce papier, c'était assez facile de nous l'octroyer. Ça permettait à Yaya de commencer un apprentissage, aller à l'école, et puis après de refaire des demandes pour continuer ou pas. Mais ce papier, on ne nous le donnait pas. Jamais. Et les mois ont passé. Ma patience a atteint des limites. Yaya, lui, est très patient. Il sait qu'il ne va pas repartir de la préfecture avec son papier, mais il sait que cette démarche, elle est importante, c'est d'aller à la préfecture et de réclamer tous les 15 jours ce document, parce que si tu ne te présentes pas, tu te fais oublier. Donc, c'est totalement nécessaire d'y aller régulièrement. Quand on se retrouve à la préfecture, j'attends des heures dehors par tous les temps, hein, par toutes les saisons. Parfois inutilement, puisque les portes se referment sur nous parce qu'on est en dehors des heures d'ouverture de la préfecture. Donc, il faut revenir une autre fois. Mais en fait, on sait que c'est nécessaire pour pas se faire oublier. Donc, on revient inlassablement et on repart toujours bredouille, puisque une jeune fille charmante, certainement en service civique, avec un dossier sous le bras, vient à notre rencontre et nous dit « Mais monsieur, madame, votre dossier est complet, on vous appelle très vite. » Moi, je ne sais pas tout ça, je suis d'une grande naïveté, j'attends ce document et je fais tous les efforts pour l'obtenir, pour que Yaya puisse rentrer dans ce lycée et soit apprenti chez nous. Il vaut mieux pas comptabiliser le nombre de temps que tu passes à faire des formalités qui sont inutiles finalement puisqu'on n'est pas écouté. Là, moi, j'avoue que moralement, physiquement, je perds ma patience, quoi. Je comprends que je suis pas entendue du tout. Et de toute façon, il faut trouver une solution pour aider ce gamin. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Il y a un jour très précis, à la sortie de la préfecture, je dis à Yaya, aujourd'hui j'ai dépassé mes limites au niveau de la patience. Je ne reviens pas dans cette préfecture. On a largement assez perdu de temps comme ça, je ne reviens pas. Il me dit, mais Patricia, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais moi, je ne veux pas que tu attires l'attention sur moi. Parce que je me fais le plus discret possible pour pas qu'on vienne me chercher. Donc, n'attire pas l'attention sur moi. Et je lui dis, est-ce que tu me fais confiance? Il dit, bah oui, évidemment. Alors, laisse-moi faire. Quelques jours auparavant, j'étais tombée sur l'émission où Stéphane Rabaclet parle de son parcours avec son apprenti. Et c'est un homme en pleurs à la télé. Il est en grève de la faim. Il est en souci total à cause de la menace d'expulsion de son apprenti. Et moi, je m'identifie totalement à cette histoire. Je suis en train de vivre la même chose. Et ça fait très longtemps que je cherche un acte fort pour faire arrêter toute cette pression sur Yaya. Et je me dis, mais Stéphane a complètement raison. ça fait très longtemps que j'y pense, je veux faire comme lui. C'est lui qui a raison. Il y a un moment où il faut passer la seconde, quoi. Quand une situation patine autant que ça a traîné pour nous, si on ne va pas de l'avant, la situation va stagner et on va perdre, quoi. Et ça, je ne veux pas, quoi. C'est pas envisageable. Alors, je me lance. Je vais continuer à travailler. Je vais m'arrêter de manger totalement. Et j'espère que la préfecture m'entendra. La grève de la faim, c'est un geste, un cri d'amour, un cri de désespoir. Enfin, je me dis que c'est ma dernière carte et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je ne suis pas fière de moi, je doute, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait de décider de faire ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'écris sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Yaya, j'entame une grève de la faim. C'est un geste à la hauteur de mon affection pour toi. Je vais continuer à travailler. Je vais m'arrêter de manger totalement.
Jusqu'en février 2021, j'ai reçu un appel d'envoyé spécial. Bonjour, c'est Yaya. J'ai dit oui, c'est moi. Est-ce que vous savez que quelqu'un est en grève de la faim pour votre régularisation? J'ai dit non. Elle me dit, bah oui, bien sûr. J'ai plus quand même, ça fait 3 jours. Pourtant, un jour avant, j'avais vu Patricia, mais elle ne m'a pas dit. Parce qu'elle sait que si elle me le dit, moi, ça va me faire mal. Parce que j'ai vécu la famine. J'ai vécu la séquestration, de rester à la maison, voir à manger sans manger. Ça va me faire toutes ces mauvaises pensées. Elle ne m'a jamais dit. Moi, j'appelle Patricia. Patricia, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, il n'y a rien. Je suis à la maison, je viens de finir le marché, j'y rentre. J'ai dit, il y a une journaliste qui vient de m'appeler, Alice, de envoyé spécial, qui était en grève. Ah oui, bien sûr, Yaya. Je ne peux plus. Ça fait combien de semaines que je travaille toute seule? Toi, tu veux venir travailler sur moi et l'administration ne veut pas. On demande juste une autorisation de travail pour que tu signes un contrat. Et là, j'étais bouche bée. C'était tous les mauvais souvenirs que j'ai vécu avant. Être quelque part où je ne voyais pas à manger, j'ai dit, c'est ce qui est en train de vivre. Déjà 3 jours maintenant, c'est trop. Parce que nous, on a fait 7 jours dans le désert. À la 5e journée, notre manger, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'eau. Donc, on a fait presque 48 heures sans manger ou boire. Tout ça, ça me revenait. Ou lorsqu'on a été en prison en Libye, j'ai dit, il faut manger. Ça va bien se passer. Il a dit non. Là, c'est soit on a une réponse qui est bonne, j'arrête. Soit, je continue.
Les 3 premiers jours sont difficiles. Parce que le corps réclame à manger. De pas manger, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime manger, qui me nourrit parce que je travaille beaucoup. Et de s'arrêter de s'alimenter, ça fait peur parce que très rapidement, on se sent pas bien. Et après, le cerveau prend le relais parce que le sujet de la grève de la faim est tellement important que le corps admet. Petit à petit, on a de moins en moins faim parce que le cerveau fait ce qu'il a à faire. On perd très vite des kilos. Hein. Je me suis vue très faible. Mais je continue de travailler. C'est important pour pouvoir en parler aux clients. Eux, ils me voient faible, maigrir. Je leur explique, je ne suis pas malade du tout. Je fais juste une grève de la faim pour Yaya. J'ai besoin de votre aide. Il signe la pétition et téléphone à la préfecture pour régulariser Yaya. Et je sais que leur soutien, il est super important. Je suis contente de les voir au marché, de partager tous ces moments avec eux. C'est des soutiens totalement indispensables. Une grève de la faim, tu ne peux absolument pas la faire dans ton canapé, chez toi, isolé. Tu as besoin de le partager et surtout d'avoir l'énergie des autres. Mes enfants me soutiennent, ils connaissent bien Yaya, et c'est comme une évidence d'aller au bout des choses. Si mes enfants me soutiennent, moi, ça me donne des ailes, concrètement.
Jusqu'à ce jour où le député qui était de notre circonscription, qui est venu nous voir pour s'inquiéter de la réalité, si c'était du bluff ou si c'était de la réalité. Et quand il a vu Patricia très fatiguée, il a dit « Non, mais ça, il faut que tu arrêtes, sinon tu vas mourir ». Et moi, je n'aimerais pas que quelqu'un meure dans ma circonscription parce qu'il veut avoir son employé. Et il est rentré dans le labo, c'est moi qui l'ai fait découvrir, je lui ai montré tout ce qu'il faut. Il faut couper du bois pour alimenter le four, il faut travailler la nuit, aller faire les marchés la journée. Il dit non, ce n'est pas possible. donnez-moi tous vos dossiers et racontez-moi votre vie. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit non. Si vous n'avez aucun problème avec les autorités françaises, moi, je veux faire quelque chose. Mais, madame, il verra manger. Parce que ça a dit, OK, je vous fais confiance, mais je ne demanderai pas avant d'avoir un mail de la préfecture pour dire, OK, vous êtes convoqué telle date.
Le lendemain, on arrive bien alors à la préfecture, bien habillé, parce qu'on sait que ça va être un jour de fête. Et moi, j'ai préparé une surprise pour Yaya. Tous les journalistes qui nous soutiennent sont là. On rentre plutôt serein, mais stressé quand même. Voilà, le papier est déjà rédigé. C'est Yaya qui est acteur, hein, il s'approche du guichet, on lui tend le papier, il faut qu'il le signe, il y a les empreintes, etc. etc. Et ben là, on se serre dans les bras, il y a un grand moment d'émotion, parce que ça y est, c'est la fin, on va enfin voir l'avenir autrement. Mais on a un petit peu du mal à y croire, enfin, tout se mélange, il y a plein d'émotions. Et là, Yaya, il sort en courant et il saute dans les bras de tous les gens qui l'ont soutenu. Ma fille qui était là tous les jours, les clients du marché, tout le monde, c'est une grande fête. Mais je lui dis, mais ça ne s'arrête pas là. Hein, il y a une surprise pour toi, tu vas au lycée aujourd'hui. Et là, il ne s'attendait pas du tout à ça. On part au lycée en Berlion-Buget et il fait la visite de sa classe, de l'établissement. Et là, ce jour-là, il a pu concrètement se projeter en disant ben, « Oui, j'ai le papier dans les mains et oui, ça y est, je suis enfin sortie d'affaires. »
Nous signons le contrat d'apprentissage. Nous revenons à Bourg-en-Bresse, nous passons par Emmaüs pour saluer leur solidarité depuis le début du parcours et nous revenons à la ferme. Nous commençons nos activités parce que jusqu'à là, ce n'était pas commencé. En 2021, il y avait Covid. On ne pouvait pas aller à l'école. Il fallait faire des cours en visio, chose que je n'avais jamais faite. C'est compliqué pour moi, comment me connecter, comment répondre aux questions. Et l'année 2022, j'avais beaucoup de charges dans ma tête parce qu'avant, je faisais le foot. Mais là, j'ai dit non, il faut qu'ils arrêtent le foot. Il fallait qu'ils apprennent le code. Il fallait qu'ils passent mon permis. Il fallait qu'ils valident mon CAP. Il fallait qu'ils travaillent pour l'entreprise. J'ai dit non. Donc, j'ai laissé le foot à part. J'ai commencé à lire mon code, travailler ici dans l'entreprise et aller à l'école. J'ai fait qu'une année d'apprentissage. Un jour, je suis à la maison. Je reçois l'appel d'un journaliste. Aïe, aïe, félicitations, vous avez eu votre CAP. J'ai dit, heureusement, pour le 31 août 2022, c'est la fin de mon apprentissage, j'ai décidé d'aller prendre mon appartement. Pourquoi? Parce que Patricia, il y a ses enfants, mais personne ne vit à la ferme. Ripper, il y a ses enfants, personne ne vit à la ferme. Moi, je peux être un enfant commun des deux personnes. Mais si je vis à la ferme, je me serais vu comme une personne qui profite. Parce que il me demande de payer rien. Donc, je vais consommer de l'eau, de l'électricité, la nourriture. Donc, je me suis dit, je peux revenir. Comme quand Marie a envie de voir ses parents, il revient. Je peux revenir comme quand Jonathan a envie de voir son papa, il revient le voir. Mais, je vais aller prendre mon appartement, vivre à l'extérieur et voir le monde en réalité. Savoir c'est quoi payer une facture, comment gérer son budget, comment gérer sa vie. Donc, c'est pourquoi je suis allé. J'ai pris un appartement. J'ai payé une voiture. Je peux venir quand je veux. Ma chambre, elle est là. J'ai mes affaires encore dedans.
Yaya est chez lui ici. Il a sa chambre. Donc, il vient régulièrement. Mais on l'attend toujours avec impatience. Qu'il nous raconte son évolution. C'est toujours des bons moments. Bah, là, aujourd'hui, il va venir cet après-midi. Il fait beau. Il en profite. Quand il termine son apprentissage, je rêve qu'il reste. Parce que j'ai besoin de lui. Concrètement, il a acquis tout le savoir-faire en très peu de temps. C'est-à-dire, je peux complètement compter sur lui, je suis dans une confiance totale. Il est actif, il a toutes les qualités d'un très bon boulanger. Mais je ne veux pas qu'il s'arrête là comme une maman qui incite son enfant à toujours progresser. Est-ce que tu peux faire d'autres études? Est-ce que tu peux faire d'autres expériences pour être encore meilleur? je lui propose d'aller s'expérimenter au niveau de la boulangerie ailleurs parce que nous, on travaille avec des farines bio, on travaille avec un four à bois, ce qui est un petit peu marginal dans la boulangerie. Et j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour t'expérimenter dans d'autres boulangeries, acquérir encore plus de maturité pour revenir ici plus tard, devenir formateur pour les autres jeunes exilés. Pendant l'apprentissage de Yaya, il nous a aidés à faire encore plus de pain. Donc, on a élaboré des nouvelles recettes qui fonctionnent très bien. Donc, Yaya n'est plus dans la boulangerie. Mais nous, on a continué à faire toutes ces variétés. Et forcément, ça nous fait encore plus de travail qu'avant. Mais on sait que c'est pour la bonne cause, donc on le fait très volontiers. Il y a un pain qui s'appelle le pain de Yaya. C'est lui qui l'a élaboré. Et souvent, les clients me disent « je veux du pain de Yaya ». Donc, il a laissé sa signature de partout. Et c'est vrai que partout où il passe, et il est tellement charmant qu'il laisse sa petite patte.
Mon rêve, c'est de devenir mon propre patron. Mais pour devenir ton propre patron, il faut avoir plusieurs compétences. Il faut avoir plusieurs techniques. Il faut avoir vu plusieurs patrons travailler. Il faut avoir de grosses épaules. Donc, pour le moment, je suis en train de me muscler. Et le jour J, je viendrai avec plaisir et on va travailler. Quand Ripierre va aller à la retraite, par exemple, elle aura besoin de quelqu'un. Et moi, partout où je suis, dans chaque entreprise où je suis, je leur dis, je suis chez vous et le jour où Patricia ou l'entreprise aura besoin de moi, je vais partir. Parce que le métier de boulanger, je l'ai appris, mais il a une histoire. Je ne suis pas qu'un simple boulanger. Je ne le fais pas parce que j'ai été conseillé par Alan. Je ne le fais pas parce que j'ai aimé le métier. Mais je le fais maintenant. Parce que cette histoire l'a accompagnée. L'histoire de la grève de la faim. De se mettre en danger de vie pendant longtemps. Donc cette histoire, je ne vais pas la laisser comme ça. Je ne me force pas de faire ce que mon esprit ou mon cœur ne veut pas. Mais l'histoire qui m'a permis d'être boulanger me donne le courage de continuer.
Aujourd'hui, j'ai besoin de personnel parce que je vois qu'au niveau physique, la boulangerie me demande tellement d'énergie que je fatigue vraiment. Seuls des jeunes exilés très, très intéressés se présentent à moi avec des CAP de boulanger. Ce sont des jeunes qui ont suivi des formations en apprentissage. Et au jour de leurs 18 ans, ils ont reçu une obligation de quitter le territoire sans avoir la possibilité de continuer leur formation et de travailler. Hein, parce qu'il faut savoir qu'avec l'obligation de quitter le territoire, tout est stoppé. Ils n'ont plus la possibilité de travailler ou d'être scolarisés. Malheureusement, nous, on a besoin et eux n'ont pas le droit de travailler. Dernièrement, on m'a convoqué à la gendarmerie pour un fait d'avoir embauché un monsieur libanais pour un contrat saisonnier. Voilà, avec contrat de travail, fiche de paye, j'étais assez satisfaite d'avoir fait les choses dans les normes, mais la particularité, c'est qu'il a passé l'obtention du récépissé de droit au travail et aussi il a deux OQTF, donc de la préfecture et du tribunal administratif seulement. Les avocats nous disent que ces gens hein, pour qui il n'y a presque plus rien à faire, la seule possibilité, c'est de prouver leur intégration grâce aux fiches de paye qu'ils accumulent. Mais pour avoir des fiches de paye, il faut travailler. Donc, j'ai un petit peu occulté le fait qu'il n'avait pas l'autorisation de travail, mais de faire les choses en règle avec un contrat et des fiches de paye. Et aujourd'hui, ça se retourne contre nous, mon mari aussi, puisqu'il est chef d'exploitation, même si ce n'est pas lui qui a fait la démarche de l'embaucher, que c'est bien moi, c'est, ça se retourne aussi contre lui, parce que c'est interdit par la loi, mais qu'en même temps, pour pouvoir les régulariser, il faut qu'ils travaillent. Donc il y a un moment, il faut choisir dans quel camp on se situe. J'ai aucune nouvelle du procureur. J'espère qu'à travers tout ce que j'expliquais à la gendarmerie, comprendra que je n'ai pas décidé d'être hors la loi, mais bien d'essayer de faire avancer les choses en permettant à ce monsieur d'accumuler des fiches de paye pour sa régularisation. J'ai suivi l'actualité au moment de la décision des lois pour les migrations. Ces lois, elles me mettent aussi en difficulté parce que je ne peux pas embaucher de jeunes exilés. C'est des jeunes qui sont venus à la ferme, qui ont été testés, qui ont fait des essais extrêmement positifs. Et je voudrais tellement pouvoir les embaucher. Je voudrais tellement que la préfecture nous donne ce récépissé de droit au travail.
Hello! Salut! Ah, vous êtes occupé?
Il fait froid, Yaya, dans la maison. Allez, viens!
Bonjour!
T'es tout seul?
Je suis avec moi. Ça va ici?
Salut!
Ça se passe bien?
Il y a le chef de l'autre côté.
Ah ouais! Hey, le chef!
Ça va, Yaya?
Fin 2023, le débat autour de la loi immigration a notamment porté sur la régularisation des travailleurs sans papier dans des métiers en tension. Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait que les travailleurs, sous certaines conditions, puissent être régularisés de plein droit, et non plus à la discrétion des préfets. Dans la loi qui a été promulguée le 26 janvier 2024, cette disposition a été supprimée, et les régularisations sont à nouveau à la discrétion des préfectures, souvent débordées de demandes. Avant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet doit vérifier la nature du travail, l'insertion sociale du demandeur, son respect de l'ordre public, son intégration, son respect des valeurs et des principes de la République. Le préfet a la possibilité de refuser la délivrance du titre, même si toutes ces conditions sont réunies. Depuis la régularisation de Yaya, Patricia a créé l'association Patrons Solidaires pour soutenir les artisans qui sont empêchés d'embaucher des jeunes qu'ils forment et accompagnent. Yaya a créé l'association Un pour tous et tous pour un, qui vient en aide aux jeunes mineurs isolés. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Adèle Kaito. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. À très vite.